T'as vu quoi?
On entend. On voit pas.
T'as vu quoi avec tes oreilles?
Presque mille.
Des insectes.
Des oiseaux.
Mouches. Tu vois.
Là, on est vraiment rentré que sur la production de fruits, quoi. En gros, pour les exploitants, c'était une diversification sur leurs exploitations agricoles. Avec les approches, on va dire les approches qu'eux avaient, c'était soit de la diversification pure et dure, des gars qui étaient céréaliculture pure et qui se disaient, il faut peut-être qu'on réfléchisse à un autre.
Je pense que planter ça aussi, parce que je crois en notre métier, et je crois que notre métier va changer.
Et puis des gars qui avaient aussi des parcelles, des petites parcelles en bord de village, quoi. On peut dire en zone urbaine, mais plutôt des zones à proximité d'habitation et qui voyaient dans la noyerie un système un peu plus extensif, quoi, en matière de production. Et qu'on avait un peu marre d'aller traîner avec le pulvé sur des petites parcelles, des doublages, où il y a l'image aussi.
On aimerait tous ne rien mettre dans nos champs, récolter beaucoup.
Ouais.
Mais La solution est très très compliquée. Enfin, aujourd'hui, personne ne l'a trouvée.
Il y a toujours eu une tradition en Petite-Beauce quand même de diversité en termes de culture. C'est pas que d'aujourd'hui. La production du cassis, par exemple, c'est quelque chose qui est très ancien en fait sur ce secteur-là. Voilà. Je crois qu'il y a toujours eu comme ça des petites choses un peu atypiques c'est pas forcément ce qu'on sait et ce qu'on véhicule, mais je crois qu'il y a un terreau pour s'ouvrir vers autre chose, quoi. Mais il faut, c'est caché en fait, tout est un peu caché, donc il faut aller le révéler un peu. Voilà.
On est dans une cour de ferme, il fait chaud, tout est blanc, il n'y a pas un corps qui bouge. C'est sec. À l'entrée du village, il y a un champ de noyers. Ils sont encore petits, mais c'est déjà vert en dessous. Ça change. Et juste de l'autre côté de la route, il y a un grand noyer. Qui laisse imaginer ce que le champ pourrait devenir. On a d'autres ambiances, une ombre, la tête, des insectes, quelques bouts de métal entreposés et un oiseau. Il fait frais. Presque humide.
Donc là, maintenant qu'on a procédé une petite immersion sonore sur le bord de Loire, peuplée donc d'une faune humaine et non humaine, on va pouvoir vous accueillir pour cette discussion sur le thème des nourritures fluviales. Avec un certain nombre d'intervenants et d'intervenantes que je vais présenter. Mais auparavant, je vais vous lire juste un petit préambule, un petit texte, qui est le seul moment protocolaire de la discussion. Ça, je vais lire ce petit récit pour vous donner le cadre et puis juste vous rappeler que c'est une discussion qui va être enregistrée. Donc l'idée, c'est qu'évidemment, tout le monde puisse prendre la parole, mais avec un micro. La seule règle qu'on va s'imposer, c'est ça. Donc voilà, je vous dis un petit texte qui est ce autour de quoi on a construit un peu les interactions et les prises de parole qui vont avoir lieu et qui vont essayer de ponctuer la discussion. Et puis ensuite, on va commencer. Évidemment, n'hésitez pas à intervenir, à prendre la parole, mais toujours en respectant cette règle du micro. Et puis ça va nous emmener comme ça pendant une heure et demie sur les bords de Loire pour essayer d'explorer un peu notre relation particulière et nos modes de cohabitation avec l'espace et les vivants du fleuve. La Loire n'est pas une simple ressource, mais un milieu complexe et fragile dont nous dépendons. Les rives de la Loire, leur cortège de grèves limoneuses, plantes sauvages, faune et ressources halieutiques sont accueillantes. Des premiers ermitages jusqu'à la période contemporaine, elles ont toujours pourvu aux besoins des communautés humaines. Eau, poissons, animaux, sols fertiles, la Loire a abondamment nourri les riverains installés sur ses berges. Largement aménagé, le lit majeur du fleuve a longtemps accueilli une polyculture de maraîchage, d'élevage et de viticulture, associée ponctuellement à des cultures en lien avec la batellerie, le chanvre par exemple. À leur tour, ces activités ont modelé les berges, travaillé les sols, modifié le cours du fleuve et de ses affluents. La domestication de la faune et de la flore implique un échange entre des parties qui, chacune, sont transformées par les multiples interactions. Nous pourrions, en reprenant le sillon tracé par l'ethnobotaniste Pierre Liotagui, énoncer qu'il existe un milieu civilisateur qui accompagne et influence les riverains jusqu'à façonner leur mode de vie. Nous pourrions ajouter que l'accueil d'hôtes humains comme non humains, d'origines diverses, a contribué à tisser un maillage de cultures variées dans une vallée jardinée qui a su faire preuve d'hospitalité. La mémoire nourricière, laborieuse et vivante de la Loire, charriant du limon, des pensées et des denrées, s'est estompée, mais elle demeure. À travers la figure de Pierre de Ronsard, poète, prieur et jardinier, il y a 5 siècles, nous évoquerons les différents récits liés aux nourritures ligériennes, qu'elles soient terrestres ou spirituelles. Nous nous interrogerons sur l'apparente constance d'une tradition maraîchère de plus en plus liée aux préoccupations écologiques. Et enfin, nous évoquerons l'état de santé de Loire et des vivants qui peuplent ses berges et ses eaux. Voilà le cadre. Et alors, pour essayer de traverser cette discussion dans les meilleures conditions possibles, nous avons autour du pseudo-cercle un peu ovale que nous avons essayé de former modestement, Vincent Guidot, qui est à ma droite, qui est responsable de la demeure de Ronsard, Prieuré Saint-Côme, Masato Fujisati, qui est à ma gauche, paysagiste et maraîcher en Blois à Vienne, Jean Cabaret, ici, coordinateur du Polo, Pôle Art et Urbanisme à Tours, Lolita Voisin, enseignante-chercheuse à l'École de la Nature et du Paysage, INSA Centre Val-de-Loire à Blois, Béatrice Amossé, là-bas, à ma droite aussi, éducatrice nature, coordinatrice à l'Observatoire Loire à Blois, Nicolas Leguet, tout au bout, enseignant-chercheur à l'École de la Nature et du Paysage, INSA Centre Val-de-Loire de Blois. Merci à vous d'être présents. Et pour lancer cette discussion, on va remonter un peu dans le temps et essayer d'évoquer une figure, en tout cas de proposer une figure qui nous a semblé intéressante comme un peu emblématique de cette conjugaison de fonctions nourricières du fleuve à travers la figure du poète et les nourritures spirituelles et matérielles. Donc Vincent, je te laisse la parole à travers cette interrogation sur finalement la présence de Pierre de Ronsard qui arpente les berges de Loire, qui vit dans un prieuré sur une île. Qu'est-ce que ça dit de son rapport au fleuve? Qu'est-ce qu'il y puise? Qu'est-ce qu'il y trouve?
Merci, bonsoir. Alors la tâche est lourde, hein. On ne va pas remonter aux cavernes, mais on a décidé de partir avec Ronsard parce que vous le connaissez comme poète. Éventuellement, il a semé quelques fleurs dans vos esprits. Et nous, on a plutôt travaillé à déterminer si Ronsard était quelqu'un en fait qui connaissait la nature. Et la réponse est oui, c'est pas très extraordinaire, mais on a essayé plutôt d'en faire un poète jardinier. Alors vous allez voir que finalement il y a beaucoup de similitudes entre ce que les gens de la Renaissance imaginent pour le jardinage, c'est-à-dire que travailler sur la langue, comme ça a été leur travail, en fait, se métaphorise avec la question du végétal. C'est-à-dire qu'on observe la nature faire et en fait, on essaie de copier, d'imiter l'acte naturel en l'amenant dans la langue. Donc ça, c'est un propos qui semble assez éloigné, mais l'observation de la nature, elle est basée déjà là-dessus, sur cette idée d'imitation. Ça, c'est important là, à la Renaissance. Alors, je vais revenir aux sources même du monastère. On a parlé des ermites, évidemment, qui se sont installés. Et puis, à la place des ermites, on va trouver des monastères. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, au Moyen-Âge, se rapprocher de la nature, c'était se rapprocher de Dieu. Donc, la volonté de quitter les villes où on était en communauté ou parfois dans des quartiers où on essayait d'échapper aux tentations, eh bien, c'était pour se retrouver sur une île, en l'occurrence le prieuré Saint-Côme, si vous ne le connaissez pas, est installé sur la commune de La Riche, sur une île rattachée à la terre aujourd'hui, on ne vient plus par bateau, malheureusement. Et c'est ce lieu donc, que les moines de Saint-Martin, de Tours, ont choisi pour installer une communauté autour d'un saint qui s'appelle Côme. Peut-être vous le connaissez. Côme est un guérisseur avec son frère Damien. Cela a orienté le lieu tout de suite vers le soin. Et donc, c'est aussi une problématique qui est en lien avec, évidemment avec les plantes. Au-delà du fait de devoir se nourrir, la communauté donc, a installé des vergers, des potagers, tout un espace très cultivé au sein d'un espace agricole beaucoup plus large qui déborde sur les rives de la Loire avec des, vous le savez, souvent des coteaux mieux exposés au sud qui sont utilisés pour la vigne et puis les espaces dans la vallée qui sont riches en alluvions et du coup qui sont favorables au maraîchage, donc à des cultures maraîchères. Et avec des labours plutôt sur les plateaux. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique. Donc c'est dans ce cadre-là que Ronsard va arriver au prieuré Saint-Côme. Sachez que Ronsard est religieux. On l'oublie à travers ses poèmes, justement. Mais Ronsard est un clerc depuis l'âge de 19 ans. Et cette cléricature l'a amené, tout simplement, à assurer des revenus qui lui permettaient d'écrire. Voilà. Donc ça, c'est le fonctionnement... des intellectuels de l'époque, et c'est leur manière de vivre. Ronsard est donc, je vous rappelle, poète officiel du roi Henri II, puis du roi François II, puis de Charles IX, puis d'Henri III. Donc c'est vraiment le poète qui traverse tout le XVIe siècle. Alors le prieuré, c'est un lieu particulier pour lui, puisqu'on est loin de la cour. Bruno l'a dit, Ronsard, c'est plutôt quelqu'un qui est âgé. Donc il arrive au prieuré à 41 ans. Donc il est le prince des poètes, il est auréolé de vraiment tous les titres. Il y a eu les travaux de la Pléiade sur la langue. Et donc là, il arrive, il n'a plus grand-chose à prouver, il a 41 ans. Et il vient se réfugier dans ce lieu pour prendre la distance avec la cour. Et je dirais... quelque part, se recentrer sur son travail. Donc c'est à la fois un lieu de labeur, puisqu'il y a des travaux d'écriture en cours, et puis il y a ce besoin de réinterroger ce qui est autour de lui, notamment la nature. Il y a des distractions qui suivent les travaux d'écriture, donc l'écriture se déroule le matin, on imagine, dans son cabinet à l'étage, avec vue sur la Loire. Et puis, passé midi, eh bien, il y a le moment de la promenade qui va arriver. Et ces promenades, en fait, sont des récoltes. Donc c'est vraiment le moment où on se sert de tous ses sens pour collecter tout ce qu'il y a à sentir, à voir. Et ces choses-là vont entrer dans les poèmes. Voilà. Et c'est aussi des poèmes, pour se reposer aussi des travaux plus complexes qu'il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire, par exemple, une histoire de France en vers qui lui demande de traduire du grec, enfin bref, de relire des trucs pas forcément très, très chouettes. Et du coup, il a cette possibilité, au prieuré Saint-Côme, de s'échapper, de suivre les rives de la Loire. Et finalement, il suit le même chemin que les moines, qui, eux, sont juste à côté de lui dans la communauté, qui, eux, vont finalement partir dans des promenades méditatives. Donc là, on est sur le mouvement de la construction, finalement, de poèmes qui vont se construire au fil de la promenade et qui vont finalement atterrir sur le papier, peut-être quelques jours plus tard, et qui vont être publiés. Voilà. Donc si un jour vous avez l'occasion de lire les 6e et 7e livres des poèmes de Ronsard, la plupart ont été écrits, en tout cas ont été pensés au prieuré Saint-Côme. Et là, on y trouve tout un cortège de plantes. Donc c'est là que ça devient intéressant. C'est quitter finalement toutes les commandes diverses et variées que le poète officiel peut recevoir et commencer à regarder autour de soi avec cette idée que le visible, à la Renaissance, appelle l'invisible. Voilà, on a besoin de regarder une plante pour, d'un seul coup, faire allusion à un mythe, un personnage. Et donc, ça fonctionne toujours comme ça. Donc, la plante, c'est pas juste une plante avec des propriétés, des caractéristiques. Ronsard, c'est à chaque fois à quoi sert la plante, si ces plantes sont malades. Enfin, on devine qu'il sait beaucoup de choses et qu'il en dit finalement assez peu. Mais à chaque fois, c'est toujours ramené à l'invisible. Et ça, c'est ce qui permet de raconter beaucoup d'histoires. Et c'est aussi comme ça que le jardin a été repensé. Une diversité qui appelle voilà, une pléthore de thèmes, de personnages, de figures qui viennent un peu hanter les lieux. Voilà. Et donc, de manière très pragmatique, après la promenade, on pourrait parler du jardinage. Le jardinage, c'est un acte où on met les mains dans la terre, effectivement. Et j'ai commencé par là tout à l'heure, parce que l'acte principal... le mot domestication, on peut dire qu'il démarre à ce moment-là, finalement, parce que Ronsard aime les jardins sauvages. Alors, vous trouverez rarement des lignes de Ronsard sur les jardins la française, sur les jardins avec les statues, les alignements de buis, etc. C'est pas son modèle. Il est né en Vendômois, aux portes de la forêt de Gâtine, et ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, étaient des gardes forestiers. Donc son enfance, elle est vraiment nourrie, justement, des antres, des sources, des ombrages de la forêt de Gâtine. Et donc, c'est cette mythologie d'enfance est née dans ce registre-là. Donc, Ronsard aime les jardins sauvages parce que, justement, lui, il a l'intention d'apprivoiser une langue sauvage. Et il va essayer de... comme le jardinier fait des greffes, eh bien, lui, il va greffer à notre langue des mots grecs, des mots latins, des mots italiens, des mots espagnols, des patois, etc. Donc en fait, ce qui le fascine en observant la nature, c'est de pouvoir reproduire ça d'un point de vue littéraire. Donc ça, c'est aussi un intérêt particulier du poète. Et puis après, il y a évidemment l'intérêt du Ronsard malade, qui est un vieil homme qui a recours aux plantes. Donc forcément, quand on lit l'œuvre, on s'aperçoit que il connaît les propriétés des plantes qu'il utilise pour se soigner. Alors, le rhumatisme. Alors, parfois, on sort des bords de Loire. On imagine qu'autour du prieuré, il y a forcément un cortège de plantes accessibles, facilement accessibles. Et il a même un médecin parmi les membres de la communauté. Mais du coup, il est aussi, il a aussi accès à des produits qui viennent, c'est ce qui est aussi fascinant à la Renaissance, qui peuvent venir de très loin. Voilà. Le bois de Gaillac, notamment, est un bois qu'il utilise beaucoup. Ronsard a eu tout un tas de problèmes de santé qui démarrent avec des surdités à l'âge de 16 ans. Certains ont parlé de syphilis. C'est peut-être aussi des otites mal soignées. Il y a des problèmes de gouttes. Donc il y a toute une batterie de problèmes de santé qui font qu'il va, de toute façon, s'intéresser aux plantes. Et donc voilà, ce rapport au jardin, il est celui d'un homme qui est né dans un cadre qui est un cadre sauvage, naturel, et qui évidemment s'intéresse à ce qui est autour de lui et donc va herboriser, va à sa manière classer les plantes. Donc le travail qu'on a fait notamment, c'était de découvrir que Ronsard dans son œuvre cite 350 plantes, alors qui sont pas que des plantes des bords de Loire. Certaines ont un caractère assez méditerranéen parfois, puisqu'il se nourrit de beaucoup de mythologie. Donc ça nous renvoie plutôt aux rives de la Méditerranée. Mais il y a cette connaissance très fine du végétal. On a, nous, recensé à peu près 350 plantes qui sont bien détaillées, bien définies, et qui nous permettent de dépasser donc, le simple fait que Ronsard aimait les roses et les invitait volontiers dans ses poèmes. Voilà. Donc ça permet de dépasser ce cortège de plantes qui est quand même assez limité.
Merci. Juste pour nous donner une idée, alors il herborise, il est spécialisé, il est accompagné de jardiniers, il a lui-même son propre jardin potager. Pour nous donner une idée de la palette végétale, et avant de poser la question à Masato, quelques indices de ce que Ronsard a à sa disposition. Alors c'est évidemment assez exceptionnel, puisque lui-même a un statut très particulier.
Alors la palette végétale qui est présente au monastère, elle est déjà faite de ce que les moines ont acclimaté depuis des siècles. On sait que depuis... au moins à l'époque de Charlemagne, on a une idée des listes de plantes qui circulent et de plantes qu'on incite en tout cas à planter, à récolter dans les monastères, dans les châteaux. Je fais allusion au capitulaire de Vilis, donc qui nous surprend toujours parce qu'il nous emmène avec des concombres, des gingembres, des pois chiches. En fait, on se dit le Moyen-Âge. C'est finalement des frontières beaucoup plus larges que celles qu'on avait imaginées. tout simplement parce que les hommes ont commencé des voyages, donc les plantes ont circulé avec les hommes, les croisades, etc. Donc font que on a au sein du prieuré déjà un potager médiéval qui recense déjà énormément de plantes, donc qui peuvent venir de parfois assez loin. Ensuite, il y a des plantes évidemment qui sont, on le sait, prélevées directement dans les espaces sauvages, naturels. C'est comme ça que les panais sont entrés dans nos jardins. Donc au Moyen-Âge, les panais qu'on a ne sont pas les panais de Guernesey, mais les panais que vous pouvez voir dans la nature assez facilement. Donc amusez-vous à en transplanter. Vous verrez, ça marche mieux même que d'essayer de faire des panais dans son jardin. Ce n'est pas le même rapport, ce n'est pas le même goût non plus. Hein, c'est beaucoup plus puissant en goût, mais ça fonctionne très bien. Donc les potagers sont nés comme ça, en fait, hein, d'aller chercher des choses directement. Le mouvement, il continue la Renaissance avec l'entrée notamment des petits fruits, les fraisiers qui vont quitter les sous-bois et arriver dans les jardins. On va commencer à les améliorer. Et ce qui diffère peut-être entre le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est qu'à la Renaissance, les légumes reviennent vraiment à l'honneur. Mais je dirais toute la palette des légumes. C'est-à-dire que le Moyen-Âge, très souvent, les gens imaginent que des racines. Alors, en fait, ça existe, les racines au Moyen-Âge, évidemment, mais en tout cas, les nobles ne consomment pas ou très très peu de racines, voilà. Parce qu'en fait elles poussent vers les enfers. Donc il va falloir plutôt se nourrir des parties aériennes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont aussi, ils chassent des animaux qui volent plutôt. Voilà. Ils vont pas chasser des animaux qui sont des lapins. Enfin, évidemment les paysans eux vont se nourrir des racines et des lapins, hein, ça y a pas de problème. Mais en tout cas voilà, il y a cette grande distinction qu'il faut faire. Donc évidemment à la table de Ronsard on va trouver avec les apports de la Renaissance, enfin les apports italiens. Là, je ne parlerai pas des Amériques, parce qu'évidemment, on sera hors sujet, en tout cas. Il y a des choses qui sont connues, les épices vont finalement être intégrées assez vite, mais les légumes américains vont arriver beaucoup plus tard, en fait, vont être consommés plus tard. On les connaît, mais on ne les consomme pas. Donc les légumes de la Renaissance, que Ronsard va pouvoir cultiver dans son jardin, sont ceux finalement apportés par les Médicis, depuis Florence, donc voilà, on cite toujours l'artichaut en pensant à Catherine de Médicis, qui a priori en consommait trop. Et donc l'artichaut, c'est vraiment le légume type du légume qui d'abord s'appelle le cardon et qui, amélioré par les Florentins, va devenir l'artichaut. Voilà. Sauf que dans le cardon, évidemment, on mange pas la même chose, on va manger les côtes. Et c'est pour ça que les côtes sont importantes sur les cardons, les plantes qui vont monter beaucoup plus haut. Et l'artichaut va être un grossissement de la fleur, finalement, qui, quand vous mangez l'artichaut, un artichaut, vous mangez une fleur. Et donc, voilà, ça, c'est un mets qui est très, très recherché à la cour, les asperges aussi, toutes les salades italiennes, tous les choux italiens, les aubergines aussi qui apparaissent, donc toutes les variétés italiennes. Donc ça, ce sont vraiment des légumes importants pour la Renaissance. Ça, Ronsard les cite, on imagine qu'ils peuvent être dans son jardin. Et puis, plus localement, il y a le melon. Voilà, le melon qui s'appelle pompon chez Ronsard. Donc, ne cherchez pas le mot melon si vous lisez ses poèmes. Ce seront des pompons qui vient du grec pépon. Voilà, c'est une transformation. Et puis, les melons de cette époque sont très côtelés. Donc, ils peuvent ressembler à des petits pompons comme on a sur les bonnets. Et ces pompons, très souvent, ils sont mis en scène dans des offrandes que Ronsard fait au roi et à la reine quand ils viennent le visiter. Donc cette tradition, moi, que j'aime beaucoup, c'est que quand on reçoit des gens chez soi, très souvent, on fait un tour de jardin. Et puis, éventuellement, on cueille des choses pour les inviter. Donc voilà, imaginez cette scène avec un Ronsard offrant des melons, et puis bien sûr disant que c'est peu de choses qu'il a dans son jardin, mais au moins, il offre ça de bon cœur. Et il remercie à chaque fois le roi de lui avoir octroyé cette belle maison qu'est le prieuré. Donc voilà, ça se termine toujours comme ça. Voilà, donc c'est en tout cas, c'est vraiment centré autour du potager, des arts fruitiers. Et ça, c'est pas très étonnant, c'est très lié au fait qu'ils étaient totalement dépendants de ces plantes. Et que le verger reste encore quelque chose qui fascine. Le verger, c'est vraiment le jardin du Moyen-Âge. C'est la représentation de l'Éden, du paradis, hein, donc les religieux plantaient des arbres fruitiers au-dessus des cimetières. Et en fait, avec Ronsard, on va arriver dans cette partie où, là, par contre, on commence à s'interroger à la manière d'installer l'arbre fruitier dans le jardin pour qu'il prenne moins de place, mais qu'il continue à produire. Donc tous les palissages sur les arbres, les greffes, etc. Donc là, c'est vraiment un moment important. Et puis, je terminerai là-dessus, c'est aussi le herboriser, c'est aussi classer les plantes. Voilà, donc les premières tentatives de classement des plantes vont commencer en fait à ce moment-là. Donc voilà, on est sur les prémices de ce qui va se passer au XVIIe, au XVIIIe siècle avec ces personnages. Donc bon, ça, il est intéressant parce que c'est une charnière entre finalement le Moyen-Âge et puis ce qu'on va connaître à l'époque moderne et qui va s'amplifier. Voilà, donc à l'époque où les carottes sont encore blanches, où on transforme pas les couleurs des légumes pour les rendre plus désirables. Donc voilà, et en même temps avec évidemment une diversité. Aujourd'hui, on travaille avec des maraîchers sur des variétés de melons et on se rend compte qu'il y a des trentaines de variétés de melons. Et voilà, le melon de Langeais, je cite un melon tourangeau, mais au XVIIe siècle, c'était une des variétés les plus produites en fait en France. Et aujourd'hui, voilà, vous aurez beaucoup de mal à trouver un melon de Langeais. Voilà. Il y a les sucrins de Tours, mais...
Alors justement, on va poser la question du rôle des variétés, des couleurs aussi de ce qui est planté et de la façon dont toi, Masato, à travers ton parcours qui est particulier, pour que tu arrives au maraîchage, tu convoques, est-ce que tu convoques aussi une forme de spiritualité dans ton rapport au sol et puis finalement cette continuité de tradition maraîchère qui a permis dès le XVIe siècle et même avant d'avoir cette palette végétale assez complète, est-ce qu'elle perdure et sous quelle forme toi tu l'as fait perdurer ?
Oui, donc la tradition maraîchère en Bloisvienne, j'essaie de la faire perdurer un petit peu. En fait, Bloisvienne, ça a été très longtemps occupé par du maraîchage. Mon voisin aime beaucoup me raconter que dans les années 60, il y avait des maraîchers de à peu près du cimetière en Bloisvienne jusqu'à Barrivière. C'était que des maraîchers et qui venaient tous vendre sur le marché de la Lograin et que tout le monde arrivait à gagner sa vie avec ça. Et voilà, il est toujours un peu nostalgique de cette époque quand il me raconte ça. Puis après, suite à l'apparition des grandes surfaces, le petit maraîchage comme ça a commencé à disparaître petit à petit. Et jusqu'à il y a une quinzaine d'années, il n'y avait presque plus de maraîchers sur tout ce secteur. Et puis l'agglomération de Blois a racheté du foncier, d'abord dans une idée de projet de lotissement, si je dis pas de bêtises, et qui a pas pu aboutir. Et finalement, ils ont profité de ce foncier-là pour réinstaller des maraîchers. Donc ça a commencé avec ma collègue qui s'appelle Anne-Sophie Casté, qui est arrivée il y a une dizaine d'années. Ensuite, il y a eu Harry, qui est plus du côté de Barrivière, qui s'est installé il y a peut-être 5 ans. Et moi, je suis arrivé sur cette parcelle-là il y a 2 ans. Donc là, c'est vraiment au cœur de Bloisvienne. On est très proche de la ville. Oui, je me suis orienté vers le maraîchage un peu, d'abord parce que je m'intéressais aux questions... Enfin, donc j'ai un parcours de paysagiste, pardon, je répète ça. Je me suis intéressé aux questions périurbaines, à l'agriculture en parallèle. J'ai été assez sensible à l'idée que l'agriculture soit présente aux portes de la ville, qu'on puisse la sentir, qu'on puisse la voir. Je trouvais que le maraîchage était une voie intéressante pour ça et puis pour plein d'autres aspects. Et c'est ce qui m'a amené à me reconvertir vers le maraîchage et ensuite à m'installer là. J'ai vraiment eu de la chance de trouver ce terrain.
Alors justement, tu fais cette boucle pour revenir au sol et qu'est-ce que tu choisis de faire pour continuer cette fameuse tradition maraîchère ou la renouveler ou innover ?
Oui, alors du coup, j'ai décidé de m'orienter un peu plus sur les légumes asiatiques et les légumes primeurs, les légumes exotiques aussi. Et puis, au fil de mes expérimentations et mes relations avec certains légumes, j'ai aussi décidé d'intégrer quelques légumes plus classiques. Mais en gros, depuis ça va être ma sixième saison, quoi. Depuis le début, je teste en permanence des nouvelles variétés. Donc, au début, j'ai testé beaucoup de légumes asiatiques. C'est pas forcément complexe en soi parce que je fais des légumes qui sont issus de climats similaires, donc de climats tempérés en Chine ou au Japon. Par contre, il faut trouver toujours la bonne date de semis, la bonne densité, et ça c'est des choses c'est des données qui sont plus difficiles à obtenir et donc ça demande un peu plus de tests. Après, il y a des légumes qu'on va tester à plusieurs collègues. Là, on parlait du gingembre tout à l'heure. Là, il y a des maraîchers au Québec qui ont commencé à faire beaucoup de gingembre sous serre. Du coup, on a essayé de s'inspirer de leur méthode pour réussir à produire du gingembre sous serre. Ce qui est très intéressant avec le gingembre frais, c'est qu'il dégage beaucoup plus de saveur et il a un arôme très puissant, il est beaucoup moins fibreux. Du coup, c'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes à tester. Et c'est encore plus agréable quand on est plus nombreux à le faire, parce qu'on prend un peu moins de risques au final.
Et quand tu dis que tu testes, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu as une clientèle qui accueille favorablement tous ces essais et qui accepte d'acheter, de goûter, parce qu'il faut, c'est une économie quand même, le maraîchage.
Oui, c'est ça. Alors, comme je disais au début, j'ai beaucoup testé. Et dès la deuxième ou troisième année, j'ai vraiment réduit la part de tests parce que ça commençait à devenir beaucoup trop chronophage. Et puis, je me rendais compte qu'il y avait certains légumes qui n'étaient pas si bons que ça. Ou alors que je trouvais très bons, mais que j'arrivais pas à expliquer comment il fallait bien les cuire, parce que voilà, ça demande du temps à chaque fois d'expliquer ça sur les marchés. Voilà, c'est comme ça que je réduis de plus en plus mes tests et que je me concentre sur ce que j'aime à la fois cultiver et les légumes qui ont un bon retour de la part des clients.
Et alors, en préparant un peu la discussion, on a parlé du sol. Est-ce que donc on voit bien que le sol limoneux, on a coutume en tout cas de dire que les alluvions déposées sont très fertiles et qu'elles permettent de créer des jardins et un maraîchage extraordinaire. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est associé aussi à la valeur gustative?
Alors en fait, les sols sableux donc du Val de Loire sont très intéressants. Parce que il réchauffe plus vite au printemps et ça permet de commencer le cycle de culture un peu plus tôt. C'est-à-dire on peut passer soit les outils à main, soit le tracteur un peu plus tôt au printemps. C'est-à-dire on peut commencer à travailler le sol en février, en mars, même s'il a un petit peu plu, ça va quoi. Alors dès qu'on est dans des contextes avec des terres plus lourdes, un peu plus limoneuses sur le plateau de la Beauce ou autre, on va pas pouvoir travailler le sol. Enfin, vous pouvez faire l'expérience dans votre jardin si vous avez une terre lourde. C'est très difficile d'arracher une touffe d'herbe et d'en séparer l'herbe des racines. Et ben, c'est un peu ce principe-là qui fait que un sol sableux va être plus facile à cultiver. Après, en termes de précocité, pareil, mon ancien maraîcher, me disait que c'était les maraîchers qui étaient sur le coteau de la Loire qui arrivaient à avoir les légumes les plus précoces, quoi. Donc ceux qui avaient les premiers petits pois, c'était ceux-là, et c'est eux qui vendaient le mieux sur le marché de la Locrin, quoi. Ensuite, en termes de goût, pour être honnête, à ce qui paraît, c'est les légumes issus de terres fortes qui vont avoir plus de goût, donc des sols plutôt limoneux ou argileux. On va retrouver plus une marque du terroir dans ces légumes-là.
Plus que les sols sableux, ils sont plus faciles à travailler. Voilà. D'accord. Et la suite, comment tu vois l'évolution de ta pratique ou même du maraîchage? Est-ce que c'est plutôt favorable? Est-ce que la clientèle augmente? Est-ce que ça nous laisse un peu d'espoir pour l'avenir ou...
Oui, pour l'instant, la clientèle est très fidèle. Elle augmente très légèrement maintenant, puisque j'ai quand même bien progressé ces dernières années. Pour l'instant, c'est très positif et encourageant. Après, je suis plus inquiet, moi, sur le dérèglement climatique, surtout en termes d'approvisionnement en eau. Là, pour l'instant, j'utilise de l'eau qui vient d'un forage qui pompe dans la nappe de Loire, donc c'est à 6-7 mètres de profondeur. Pour l'instant, elle est toujours remplie. Mais voilà, c'est beaucoup moins certain que ça. Enfin, je suis un peu moins confiant là-dessus sur le fait que ça perdure. Mais ouais, voilà, c'est ça ma principale crainte. Ensuite, pour l'instant, tout ce qui est canicule, quand c'est à ce niveau-là, on arrive à peu près à gérer. Avec, faut utiliser plus de voiles d'ombrage, faut utiliser peut-être un peu plus de goutte à goutte aussi. Mais ça va encore. Et après, c'est pour le corps où c'est un petit peu plus difficile aussi. Et ça, faut être bien reposé avant, quoi. Ouais, c'est sûr.
Et tu cultives quelle surface?
Alors là, ma parcelle, elle fait 2 hectares. Et après, concrètement, je cultive 1500 m² de serre et à peu près 4000 m² dehors, quoi. Et ça pourra évoluer vers 7000 m² à peu près.
D'accord.
Donc ça reste vraiment une petite ferme.
Mais c'est une ferme, ça rejoint la question que je vais ensuite poser à Lolita, c'est une ferme qui est située dans la périurbanité de Blois, et donc qui est dans une certaine mesure sous pression foncière d'une agglo. Ça se gère comment? Parce qu'effectivement, il faut de la terre, il faut sanctuariser un peu ces sols pour les dédier à l'agriculture.
Oui, donc là, l'avantage, c'est qu'on est en zone inondable. Donc, le principal risque, c'est qu'il y ait une rupture de digue et donc qu'une digue lâche et donc que l'eau vienne inonder le quartier de Blois-Vienne. Donc ça peut arriver, mais le risque est quand même, moi je ne sais pas si on peut dire faible, mais bon voilà, il est relativement faible. Et je le prends comme ça en tout cas, parce que sinon c'est vrai que c'est un peu paralysant. Grâce aux faits inondables, en fait, les constructions d'habitats sont interdites, semble-t-il.
Donc a priori, pas de pression urbaine sur cette zone-là, mais malgré tout, quand on construit un projet voilà, agricole lié à une agglo, il faut effectivement avoir une démarche politique de sanctuarisation pour se projeter un peu dans les territoires de production.
Oui, tout à fait. Je vais rebondir effectivement sur la situation de Massato, de la ferme de Massato, parce que effectivement, c'était des terres qu'on avait réservées pour l'urbanisation dans le quartier Vienne et qui finalement, du fait du risque d'inondation et des politiques nationales de protection contre les risques d'inondation, l'agglomération s'est retrouvée avec un foncier agricole qui n'avait pas spécialement, sauf erreur de ma part, Massato, n'hésite pas à me reprendre, mais qui n'avait pas subi de grandes transformations au niveau du sol et donc qui pouvait redevenir des sols agricoles assez facilement. Ce qui n'est pas le cas de tous les sols non bâtis, hein, faut bien s'en rendre compte. Et donc c'est vrai que l'agglo s'est positionné, enfin, a fait de cette contrainte d'avoir des sols non, qu'on ne peut pas bâtir une opportunité en faisant un projet agricole. Mais finalement c'est quelque chose de très rare. Et aujourd'hui dans nos agglomérations, le foncier est avant tout prévu et acheté pour, en tout cas était prévu et acheté pour urbaniser. Alors du coup, peut-être juste pour contextualiser pour l'auditoire, moi donc je suis paysagiste, j'enseigne à l'école de la nature et du paysage, et donc on réfléchit grâce aux travaux des élèves, il y en a quelques-uns qui sont présents, et donc c'est bien ce travail commun entre les élèves et nous, équipe pédagogique, qui fait qu'on arrive à essayer d'embrasser de nouvelles questions. Et moi, c'est plutôt par les aspects politiques, c'est-à-dire que j'ai plusieurs enseignements, les paysagistes, disons, travaillent au plus près des collectivités et des commandes publiques. Et c'est en travaillant sur ces sujets-là, c'est-à-dire en accompagnant des politiques publiques locales, qu'on sait petit à petit poser la question de l'alimentation et évidemment de la question de l'agriculture qui est totalement liée, on pourrait en reparler. Donc ça me permet éventuellement de parler d'un partenariat qu'on mène depuis un moment maintenant avec le Pays des Châteaux, donc qui est une des collectivités qui s'occupe de plusieurs sujets localement, qui au départ s'occupait principalement du tourisme, mais qui de plus en plus, puisque c'est une collectivité qui rassemble plusieurs, un très grand nombre, j'ai oublié le nombre évidemment, mais de communes, donc on est plutôt sur des échelles territoriales, et qui permet en fait de se poser des questions complexes. Et ça pour des paysagistes, mais en fait pour chacun d'entre nous, je pense que c'est une des clés très importantes à l'avenir, de pouvoir embrasser la complexité sans en avoir ni peur, ni de se sentir complètement dépassé. Donc avec le Pays des Châteaux, on a réfléchi, je vous ai apporté plusieurs documents de restitution qu'on pourra faire circuler si vous le voulez, mais on a réfléchi ensemble à des politiques, par exemple, de financement de projets locaux comme LEADER, des financements LEADER, etc. Et puis assez vite, en 2017, pardon, en fait, tu ne m'as pas posé de question, je suis partie telle quelle.
Non, mais c'est très bien, ça faisait partie des questions sur les
comment on peut travailler avec les collectivités.
Avec les collectivités, et puis comment on fait pour substituer d'un projet d'expansion urbaine, on peut substituer un autre type de projet.
Tout à fait. Et bien justement, le Pays des Châteaux, à partir des années 2017 à peu près, a commencé à se poser la question d'une politique alimentaire. Alors aujourd'hui, on est en 2023, on peut avoir l'impression, 2024, pardon, on peut avoir l'impression que ça devient commun ce sujet-là, mais en 2017, pas du tout. On nous a interrogés, École de la nature et du paysage, pour réfléchir à ce que serait une politique alimentaire. Et finalement, ça concernerait qui une politique alimentaire. Et donc on a mené plusieurs enquêtes, il y a quelques photos qui circulent derrière moi, où on a été rencontrer en fait une très grande diversité d'acteurs. Alors évidemment, on pense tout de suite aux agriculteurs, et notamment Massato a eu la gentillesse de recevoir les étudiants, mais en fait évidemment ça concerne les collectivités, donc les élus, qui ont tous des sensibilités différentes, des trajectoires différentes, des territoires sur lesquels ils sont élus qui sont très différents, les techniciens qui travaillent au plus près des élus et qui ont des savoirs en perpétuelle évolution, qui apprennent au fur et à mesure des situations. Évidemment, ça concerne aussi les citoyens. À travers les citoyens, on peut penser aux associations qui sont des moyens pour les citoyens de faire entendre des voix collectives et non pas individuelles, donc des associations de défense de l'environnement, des associations de quartier, des associations sociales aussi qui s'occupent de plusieurs types d'accès à l'alimentation. On a rencontré aussi des banques alimentaires, on a rencontré des tas d'acteurs comme ça qui gravitent autour de cette question alimentaire. Et en fait, on s'est rendu compte de la puissance de cette thématique pour essayer de penser l'avenir des collectivités de manière complexe et de manière anticipée. Alors par exemple, une des grandes découvertes qu'on a fait avec les étudiants à ce moment-là, c'est évidemment la question des sols. Et la question des sols, elle est à prendre aussi dans toute son épaisseur en termes de puissance. C'est-à-dire qu'évidemment, on parle de sol en termes de disponibilité. Je reprends ton exemple, Masato, parce que ça me permet de l'illustrer, mais il faut pouvoir s'installer, donc il faut une surface. Mais il faut aussi que ce sol il ait une profondeur, il faut qu'il ait suffisamment de, tu l'as expliqué aussi et tu connais ça mieux que moi, mais suffisamment de matière organique pour pouvoir être cultivé, qu'il ait une texture particulière qui s'adapte aux outils que l'agriculteur prévoit d'avoir. Évidemment, il faut qu'il ait des accès. Donc en fait, on parle aussi de tout ce qui va être lié à la mobilité, c'est-à-dire comment on arrive en fait à sa parcelle agricole, comment on peut la travailler. Là-dessus, l'exemple de Masato est intéressant, puisqu'on est effectivement tout proche des habitations, mais on est aussi sur des lieux de circulation publique, donc près de chemins vicinaux, de chemins publics, qui permettent aussi d'avoir un regard sur les sols cultivés. Et puis, le sol, c'est évidemment une ressource en eau. On en a parlé. Et puis, plus largement, les sols, c'est aussi leur héritage. C'est ce temps, en fait. C'est ce temps qui fait qu'un sol est cultivable et reste cultivable. Et ce temps, il est incompressible. En fait, il y a quelque chose d'hyper précieux dans ce temps-là, le temps qui a permis à un sol de devenir cultivable. Et donc, en fait, quand on commence déjà, ne serait-ce qu'à soulever tous ces enjeux-là, en termes de politique publique, de planification, par exemple, ou d'aménagement, on peut peut-être réfléchir à deux fois avant de transformer un sol, que ce soit de manière légère ou de manière lourde. Donc ça, c'est des questions que s'est posée l'agglomération. Enfin, quand je dis agglomération, je parle des collectifs. Il y en a plusieurs, des échelons, donc je ne les cite pas tous, mais que les acteurs politiques, disons, se sont posés à un moment intéressant, à partir de 2008, dans l'agglo, où il y a eu notamment un comice agricole qui a été très important pour se poser ces questions-là. Et en organisant, moi, une politique que je trouve très intéressante, en 2009, après ce comice agricole, les acteurs politiques et leurs techniciens et les techniciens ont imaginé un observatoire de l'agriculture, c'est-à-dire déjà de regarder les sols agricoles et de se poser la question de leur destination. Est-ce que c'est des sols qui sont prévus pour l'urbanisation prochaine à travers les documents d'urbanisme? Vous connaissez peut-être l'existence des plans locaux d'urbanisme, souvent intercommunaux maintenant, qui prévoient les futurs aménagements, la destination des sols. Mais qui s'interrogeait aussi sur la question des circulations, par exemple, agricoles. Est-ce que des parcelles agricoles sont en train de devenir non cultivables parce que petit à petit, on a modifié les rues, on a mis des chicanes, par exemple, pour ralentir, on a mis des... Et ce qui fait que, par exemple, des engins agricoles ne peuvent plus passer. Donc, en fait, toutes ces questions-là, moi, je trouve, qui datent quand même quasiment d'une petite vingtaine d'années maintenant, sont quand même de l'ordre d'une forme d'anticipation qui peut-être permettent ensuite des projets tels que le projet agricole sur lequel Masato est installé. Et pardon, je suis très bavarde, donc peut-être...
Non, mais je voulais rebondir sur, à mon avis, un trait commun, c'est d'avoir substitué au récit de la modernité un autre récit. Encore faut-il l'identifier, s'y accrocher et en faire finalement un axe politique. Je reprends l'histoire du prieuré Saint-Côme. C'est intéressant, c'est un site qui aurait pu disparaître sous la pression urbaine. Qui finalement, à travers un récit de jardin, a réussi à construire finalement son autonomie, à retrouver une forme d'insularité et à se protéger de l'expansion périphérique. Quand vous regardez une photo aérienne autour du prieuré Saint-Côme, c'est quand même toute la puissance de la modernité qui s'est exprimée. Et c'est un peu pareil à Blois, où on aurait très bien pu ne pas consacrer finalement la zone d'expansion des crues, l'urbaniser, la rehausser, la mettre hors d'eau, etc. Donc il faut substituer au récit de la modernité un récit de la production, du jardin, de l'environnement, d'une forme d'écologie qui à l'époque s'appelait moins comme ça, mais en tout cas qui s'assume maintenant comme ça.
Oui, voilà, il faut substituer effectivement ce récit-là. En fait, moi je crois surtout qu'il faut augmenter le récit, il faut l'amplifier, il n'y a pas un nouveau récit à créer, il faut multiplier, diversifier la question du récit. Je voulais citer un autre exemple qu'on a découvert avec les étudiants en travaillant sur la question alimentaire. Enfin, très rapidement, deux exemples. Le premier, c'était la question des déchets, c'est-à-dire qu'en fait, parler d'alimentation, ça nous a amené, de manière un peu inattendue, à parler de circulation des déchets, et notamment des biodéchets, ce qu'on appelle les biodéchets, les matières organiques qu'on ne consomme pas entièrement en tant qu'humain. Et du coup, de réfléchir, en fait, et c'est ma deuxième idée, de réfléchir à la question de la diversité des nouveaux métiers qui pourraient prendre en charge une partie de ce fonctionnement, de cette espèce de métabolisme urbain qu'il faut essayer de... Et alors là, le récit s'est ouvert avec, notamment les étudiants avaient inventé, parce qu'on travaillait sur des jeux de société à l'époque, on a inventé un jeu de société où on peut créer de manière quasiment indéfinie un nombre de métiers qui sont une manière de se poser la question sur comment on prend en charge tel aspect qui aujourd'hui n'est plus pris en charge. Par exemple, la question de la circulation des matières organiques, enfin des biodéchets issus de nos poubelles et comment on peut les restituer aux terres agricoles. Je peux citer du coup un des héros du quotidien de cette ville qui s'appelle Gervais Legras, qui a monté un projet avec son association qui s'appelle Cocival, où il récupère à vélo des biodéchets en ville, qu'il ramène, enfin qu'il emporte à la campagne auprès d'agriculteurs, un peu comme cette circulation nécessaire de matières organiques dont les agriculteurs ont besoin pour nourrir les habitants. Mais bref, ce que je voulais dire sur la question des récits, c'est que en fait, la question de l'alimentation, elle nous concerne vraiment chacun. Ça, c'est quand même extraordinaire d'avoir un sujet où on se sent tous concernés. Et en fait, elle nous permet de parler d'organisation politique, sociale et spatiale de manière, non pas forcément nouvelle, mais en tout cas, moi, j'aime bien, je tiens à ce mot de complexe parce que je pense que c'est quand même la richesse dont on a besoin pour demain. Donc ça veut dire penser évidemment les questions de production alimentaire, donc auprès des agriculteurs qui sont tous d'ailleurs dans des situations très différentes. Bien sûr, on peut penser aux maraîchers et au travail formidable que fait Masato, mais en fait il y a de très nombreux agriculteurs, de très nombreuses agricultures. Donc il faut s'intéresser aussi à cette complexité-là, qui ne sont pas simples en termes de métier et de trajectoire professionnelle. Évidemment, c'est la question aussi de la transformation alimentaire. Est-ce que on mange des produits qui sortent directement des producteurs ou est-ce qu'ils ont besoin d'être transformés? S'ils ont besoin de transformer, où? Évidemment, ça pose la question des lieux de consommation. Tu as parlé des marchés où auparavant on pouvait être très nombreux. Tu as parlé des supermarchés. Ça pose la question de tous ces lieux. Donc évidemment, là, on parle d'espace quasi public. En fait, on parle de comment on fait pour avoir accès à ces lieux-là. Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que certains publics sont isolés de ces lieux-là? Évidemment, ça parle de mobilité. Comment on fait pour se déplacer? Est-ce qu'il y a des mobilités aussi plus écologiques qu'on peut mettre en place? Ou est-ce qu'il faut continuer à utiliser des camions, etc.? Donc il y a toute cette question-là. J'ai absolument pas la réponse à tout ça, évidemment. C'est des sujets à débattre collectivement. Ça pose la question des métiers, de la dimension économique. Comment on fait pour redonner une valeur financière aussi à certains gestes de notre quotidien? On n'en a pas trop parlé, mais est-ce que les maraîchers sont suffisamment payés pour le travail qu'ils fournissent? Ça pose la question de ces nouveaux métiers, et je suis persuadée qu'il y a plein de nouveaux métiers qui vont s'ouvrir, donc pour le public aussi plus jeune ou pour un public qui aurait envie de se convertir, je pense qu'il y a plein de nouveaux métiers qui vont arriver ou qui arrivent déjà. Et puis, ça parle aussi de tous ces lieux d'échange dont on a besoin, c'est-à-dire comment on fait pour mieux connaître les agriculteurs, comment on fait pour avoir les bonnes informations. Et là, je pense qu'on a des choses à renouveler en termes de rencontres. Et là, ça me permet de conclure en disant que le sujet de l'alimentation, c'est un sujet d'intérêt général et que ça nous permet de parler de manière complexe du paysage dans lequel on vit, qui lui aussi est un sujet d'intérêt général.
Alors justement, pour nous aider, nous accompagner, puisqu'on vit un peu en marge de ça, effectivement, dans une forme de cécité par rapport à l'ensemble de ces flux, il y a des démarches qui nous poussent à reconstruire ou interroger les figures d'attachement. Jean, justement, j'aimerais bien t'entendre sur la démarche que vous avez accompagnée d'une artiste qui a fait une performance autour de la nourriture ou des territoires de production, justement, précisément pas très loin de chez Masato, ou même tout autour, et qui, il y a quelques mois, a exploré finalement un rapport particulier au sol, aux produits, aux productions, au partage.
Eh bien oui, je vais faire le lien un peu avec l'approche artistique. Alors, on est plus contemporain que Ronsard, parce que c'était l'an dernier. Le maraîchage et puis le paysage et l'aspect plus politique aussi de l'occupation des sols. Avec cette expérience qui est une création spectaculaire de Florian Facchini, qu'on a pu présenter, donc le pôle art et urbanisme de Tours. Nous étions coproducteurs de ce projet. Florian Facchini, donc c'est la jeune femme en noir avec un casque sur la tête que vous voyez sur les photos parfois, qui est d'origine italienne, qui vit vers Genève, donc pas du tout dans le coin. C'est une artiste qu'on appelle contextuelle, on peut dire ça, alors ça fait un peu ronflant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire juste qu'elle, chacun de ses spectacles tient compte du contexte quand il se crée et quand il se diffuse à chaque fois, donc toujours in situ. Elle prend le terrain comme terrain de jeu, et terrain de création, terrain de diffusion, de rencontre avec les publics. Donc voilà, donc elle est venue, et je pense qu'elle a créé donc ce que nous dit l'eau, rituel d'attachement, avec un sous-titre, déguster le fleuve, boire le territoire. Donc Là, on parle vraiment d'une approche artistique, de ces enjeux, parce que c'est au Polo, nous, c'est ce qu'on aime, c'est de penser que les artistes ont à cœur de s'engager dans ces enjeux qui nous concernent tous, qui sont ceux de la transition, de l'alimentation, de l'énergie, des paysages, de l'écologie. Ils peuvent le faire avec leur sensibilité et apporter énormément de choses, dont des récits. Donc je reviens à l'histoire des récits et leurs récits, et c'est vraiment intéressant. Donc c'est la forme qu'elle a trouvée, le récit des attachements qu'on peut avoir avec la Loire et le territoire. Je pense qu'au début de son aventure, il y a une rencontre, il y a des rencontres, mais on l'a fait venir. Donc elle a découvert la Loire avec les amis de la Rabouilleuse, qui sont des mariniers installés à Rochecorbon, près de Tours. Elle a fait un bivouac sur une île. C'est marquant, déjà, de faire un bivouac sur une île de Loire. Il y avait Thierry Bouvet, qui est pêcheur, géographe, que vous voyez, je crois, aussi sur les photos, et qui pêche des silures et qui peut en faire des silures fumées, notamment. Alors, on est tous d'accord que c'est très bon. C'est très bon. Et qui fait aussi du garum, donc, qui a remis donc, cette mixture qu'on voit aussi sur une photo. Ce sont les parties non utilisées du poisson qui sont macérées pendant un an, c'est beaucoup, pour faire quelque chose de très puissant, on peut le dire, en termes de goût, qui ressemble un peu à du gnocchman, donc une sauce marinée très longtemps. Et il y a eu cette rencontre avec Floriane, et il y a eu aussi la rencontre avec le Parlement de Loire, l'idée du Parlement de Loire, dont je pense que vous avez tous entendu parler. Si vous n'en avez pas entendu parler, on peut en parler après. Voilà, l'idée de changer notre rapport au vivant, l'idée de considérer le fleuve autrement. Et donc, tout ça, c'est une rencontre pour elle. Et je pense qu'à partir de cette rencontre, elle s'est dit, voilà, moi, j'ai envie d'explorer tout ça avec mon prisme, qui est aussi le fait de s'intéresser beaucoup à la nourriture. Elle a fait un spectacle, notamment, juste avant, qui s'appelle Cucine, où l'idée du repas et de l'alimentation comme étant ce qui nous lie en termes de liaison, de rapports sociaux, mais aussi de lien à un territoire, elle l'a décliné avec ce projet, ce que nous dit l'eau. C'était effectivement une expérience, mais aussi un spectacle qui, au final, accueille des spectateurs et tourne dans d'autres paysages que la Loire. Mais là, c'était vraiment totalement en contexte de Loire, quoi. Après, elle a fait évidemment beaucoup de rencontres, d'autres rencontres, parce que le principe de ces artistes, c'est de créer en faisant des rencontres de maraîchers, de Masato, de Lolita, paysagiste, d'écologues, de gens qui cuisinent aussi, et d'expérimenter des boissons, d'expérimenter des cuissons primitives, comme elle le dit, c'est-à-dire dans le charbon, avec des coques en pâte à sel, enfin, des choses assez étonnantes, où le fruit, le légume cuit de cette façon a un autre goût, on retrouve des saveurs oubliées ou des saveurs qu'on n'a jamais connues, tout simplement. Et puis surtout, découvrir vraiment le lien avec la Loire, comment boire le paysage, enfin, et manger, connaître aussi ceux qui produisent ces légumes. Et donc il y avait cette partie qu'on voit sur les photos au début de balade au casque, avec des témoignages de gens qui connaissent le milieu et qui l'expliquent. Et quand on se promène dans un paysage comme ça, on le voit autrement quand on nous le raconte aussi. Et puis après, cette arrivée donc sur les quais de Loire du quartier Vienne, avec un rituel assez étonnant, parce que effectivement, on pouvait déguster du pesto fait avec des plantes glanées sur les bords de Loire. Donc on réapprend aussi à se dire qu'il y a du sauvage qu'on peut manger. Et il y a toute cette démarche qu'elle avait qui est vraiment passionnante, qui est une vraie expérience à la fois gustative, sociale, écologique et politique, évidemment, parce que sa démarche est pleinement politique. Elle pose les questions qu'on pose avec le Parlement de Loire de la connaissance du vivant et de comment réapprendre parce que je pense que nos grands-parents ou arrière-grands-parents connaissaient bien mieux que nous ces plantes, les plantes qui sont bonnes, celles qui sont moins bonnes, Et c'est, voilà ce qu'on pouvait faire avec. Et arriver à créer quelque chose comme ça, de l'ordre du créatif, du philosophique un peu, et de l'expérientiel. Et ça fait du bien, tout simplement, je crois. Parce qu'il y a les vraies questions qui sont là, mais qui sont prises par le biais, par un vrai biais. Et on réapprend le paysage autrement. Les nourritures de Loire, en tout cas, on a pu découvrir. Enfin, moi, j'ai découvert plein de choses. Je connais ce que je ne connaissais pas.
Donc, on le voit, le sol de ce limageur continue d'être un sol de production. Enfin, en tout cas, il est respecté, il est accompagné. Il continue de faire vivre une forme d'économie agricole. Moi, j'aimerais bien poser la question à Béatrice et à Nicolas de l'état de cette ressource pour continuer cet accord, comme le disait Lyotagui dans ses nombreux textes, où il faut finalement un dialogue entre les milieux pour se co-civiliser et donc passer un accord pour ne pas trop prélever, où on en est de l'état du fleuve et de ses vivants. Je pense en particulier éventuellement à peut-être commencer par Béatrice sur la question de l'éducation, du regard qu'on porte sur ce fleuve, du rapport qu'on entretient, qui a considérablement évolué avec ces écosystèmes-là.
Oui.
Et puis peut-être ensuite glisser vers un état des lieux un peu scientifique.
Oui. Alors, c'est vrai que nous, on est dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Donc, ça veut dire qu'on transmet une parole scientifique et on la vulgarise à l'ensemble du public que l'on peut recevoir, du plus jeune au plus âgé. Et c'est vrai que l'environnement, il y a une approche d'entrée très différente entre la mosaïque des milieux ligériens, la ressource en eau en quantité et en qualité, le sable, est-ce qu'il y a du sable en excès ou il y a un déficit de sable. Enfin bref, il y a beaucoup de questions que l'on se pose, que le public se pose. Et puis nous, on est à l'interface entre deux visions différentes. On a une nature qui unit et une nature qui sépare, qui divise, parce que justement avec l'introduction de la parole politique qui vient se greffer en plus, et du coup l'éducateur il est coincé entre ces deux visions, et que faut-il, comment se comporter, sachant que l'éducation ne doit pas être neutre et ne doit pas rester indifférente. Donc voilà, donc on a cette transmission à faire, à une conscience environnementale à susciter, une conscience d'appartenance à un monde de vivant. C'est important, cette complicité entre l'environnement et l'individu, et montrer que la nature, c'est un tout, et que l'homme fait partie de cette nature. Il n'est pas au-dessus de tout, mais il fait partie. Voilà. Donc une nature en bonne santé, c'est automatiquement l'homme en bonne santé. Voilà, donc c'est cette manière-là que nous, on est en train de susciter, et on est en train de rééduquer le regard que l'on peut porter sur les lieux, avec justement une incitation à démontrer la valeur des lieux. Hein, comment un milieu est résilient, comment il s'adapte au changement climatique. Et justement, j'écoutais tous les propos là ce soir, Ronsard du visible à l'invisible, déguster le fleuve, boire le territoire, le sol et l'alimentation, le sable, terre légère, nutritive. J'ai déjà mon récit. Parce que nous aussi, on raconte des histoires. Hein. Donc, c'est intéressant de voir ça et de se rendre compte qu'en plus, chez les uns et les autres, la cueillette n'est plus un réflexe. La Loire est pourtant une épicerie naturelle extraordinaire, mais on a perdu le réflexe de la cueillette, alors qu'elle existait il y a très, 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 très longtemps. Donc, retrouver le goût de la sincérité, le goût de la simplicité, par un discours crédible, hein, essayer de vulgariser, pas au maximum non plus, parce qu'il faut aussi donner des valeurs justes, au plus juste. Nicolas parlera de ces données sur l'eau, le sable, enfin, on pourra se compléter là-dessus. Mais sachant que nous, par exemple, le saumon, en 2015, il y avait 1431 saumons qui sont passés par Blois. En 2021, même 2023, 113. Donc vous voyez, entre 1431 et 113 individus, il faut poser la question, le pourquoi du comment de cette baisse de l'effectif. Eh ben, c'est bien le débit qui a changé, c'est bien la température de l'eau qui a changé, c'est bien aussi le nombre extraordinaire d'obstacles à la migration de cet animal qui a évolué aussi. Donc il y a quand même aussi une vérité à apporter, sachant qu'il faut être aussi optimiste et qu'on voit aussi le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide.
Alors, je te fais réagir du coup sur cette phrase. Moi, on va fêter les 50 ans de la réintroduction du castor en Loire.
Exactement.
Bientôt.
Oui.
C'était en 1974. Donc, on se dit presque naïvement, puisqu'une espèce qui disparaît, on peut la réintroduire finalement. Ça prend. Oui. On peut la manger éventuellement, le cas échéant. Non, tout ça pour dire que, effectivement, notre rapport au milieu est intimement lié à ce que tu dis, c'est-à-dire à l'équilibre de la relation qu'on entretient et la qualité des formes de cohabitation. Mais peut-être qu'on a trop tendance à penser que ce qui disparaît peut réapparaître. L'exemple du castor n'est peut-être pas le bon.
Si. Là, par contre, c'est un bon élément. Les 50 ans, parce qu'il a été réintroduit en plus dans la région blésoise en avril 1974. Et puis, on a appris pendant la réunion qu'il y avait deux réintroductions. Une réintroduction officieuse et une réintroduction officielle. L'officielle, c'est le 14 avril 1974, avec... justement, le groupe d'individus qui devait arriver du Rhône. Hein, le patrimoine génétique ligérien a complètement disparu, par contre. On a des castors issus du patrimoine génétique du Rhône. Et puis, il y en a un qui est parti, qui a quitté le groupe, un téméraire, et il est parti le 1er avril, véridique la date, hein, 1974. Donc, nous aussi, on a notre histoire à raconter entre celui qui est téméraire, qui a voulu partir avant les autres et découvrir le milieu avant les autres. Et on va, c'est vrai, fêter les 50 ans. Et il y a une journée nationale, internationale du castor, qui est le 7 avril aussi, tous les ans. Donc, Bébert, hein, comme son nom l'indique, Bébert a réintroduit le milieu, s'est bien développé. Alors, par contre, il n'est pas bâtisseur comme le castor canadien qui, lui, fait des barrages. Nous, notre castor européen fait des petits barrages sur des petits affluents, parce que la Loire, il n'y a pas de barrage à effectuer. Et c'est vrai que c'est très, très intéressant à l'étudier, à observer, à faire des affûts de castor.
Donc, si le castor revient, la loutre aussi, tout va bien, Nicolas. Le fleuve est en bonne santé, on peut continuer d'y puiser abondamment.
Les étudiants qui sont là savent que c'est rarement le constat que je fais, malheureusement. Mais c'est vrai que le castor est un beau succès pour la Loire. Et on s'en sert maintenant. On envisage de se servir du castor pour faire ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature pour aider à la restauration de cours d'eau. Et notamment, on se dit qu'au lieu d'utiliser un tractopelle, par exemple, pour reméandrer un cours d'eau ou pour modifier un peu son hydrologie, eh bien, on laisse le castor venir et le castor fait le travail petit à petit et permet de restaurer les cours d'eau. Donc ça, c'est le côté positif, c'est le castor, mais rien que pour rebondir sur le saumon, on est passé de 1400 à une centaine. Il faut savoir déjà que 1400, c'était quand même vraiment pas beaucoup du tout. Et donc, on est quand même sur des chiffres qui sont très, très mauvais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre à l'échelle de la Loire. C'est ce qu'on appelle la continuité écologique, et c'est-à-dire à supprimer tous ces barrages ou tous ces seuils qui empêchent donc la continuité du cours d'eau. Donc ça pose un problème pour la remontée des poissons migrateurs notamment, mais ça empêche aussi la circulation des sédiments du fond de la Loire. Il faut savoir que les sédiments, ce sont donc toutes les sables, les graviers, les gros cailloux qui sont érodés en amont et qui sont censés redescendre petit à petit, être broyés en plus petits morceaux pour former les sédiments. Et notamment, en partie, ces limons qui vont se déposer aussi sur les plaines alluviales et donc qui vont participer à la fertilisation des plaines, de nos plaines agricoles. Et donc, en mettant des barrages un petit peu partout, on bloque ces sédiments et on empêche donc la fertilisation de nos plaines en aval. Et ça a causé un des gros problèmes qu'on a eu récemment, c'est l'incision du lit de la Loire. C'est-à-dire que comme on n'avait pas ces sédiments qui accompagnaient le débit de l'eau, on avait le fond de l'eau de la Loire qui était creusé de plus en plus. En creusant le lit de la Loire, on avait un niveau d'eau qui était de plus en plus bas et ça a posé certains problèmes, notamment pour des ouvrages d'art, donc pour les ponts. Et ça a causé, il y a plusieurs dizaines d'années, par exemple, l'effondrement d'un pont. Donc on a aussi des conséquences sur donc, les activités humaines d'un point de vue qualité, d'un point de vue fonctionnement.
Et sur les assèchements des zones humides adjacentes, parce que justement en abaissant la ligne d'eau, on abaisse toute le niveau de la nappe alluviale, et la nappe alluviale alimente les puits de captage permettant l'approvisionnement en eau potable des villes.
Alors, donc, là aussi. Ce que nous disait Masato sur sa crainte du manque d'eau semble réel. Enfin, en tout cas, la perspective n'est pas tellement positive.
Non, pas du tout. Malheureusement, vous avez tous vu, pas cette année. Cette année, on a eu de la chance. On a eu un mauvais été pour les gens, c'est-à-dire qu'on a eu de l'eau. Et donc, on n'a pas eu un étiage trop fort, on va dire ça comme cela. On a quand même eu un bel étiage, mais il n'était pas aussi important que celui de l'année précédente. Ce manque d'eau va poser des problèmes, notamment de conflits pour les sociétés humaines, puisque pour les prélèvements d'eau, on a trois grands secteurs qui vont prélever de l'eau. On a le secteur de l'énergie, avec les barrages et les centrales nucléaires qui utilisent beaucoup d'eau. On a la chance que ce sont que des prélèvements et pas de la consommation, c'est-à-dire que toute cette eau est restituée au système par la suite. Donc on a un petit peu de perte dans les centrales nucléaires par évaporation quand on refroidit le réacteur, mais globalement, la majeure partie de l'eau est restituée. Ensuite, on a l'agriculture avec l'irrigation. Et ça, l'agriculture, c'est, si on enlève toute tous ces prélèvements énergétiques, c'est 60% de la consommation de l'eau est liée à l'agriculture pour l'irrigation. Et ça, on n'a aucun retour, en tout cas l'année même, dans le système. Et quand on a un retour, si on est sur des parcelles agricoles en conventionnel ou intensive, on a un retour d'une eau qui est aussi de moins bonne qualité puisqu'elle va être polluée. Et enfin, on a la consommation en eau potable qui va représenter 30 à 40% de la consommation d'eau. Et donc forcément, si on a un manque d'eau, il va falloir faire des arbitrages entre l'eau potable, la nourriture et l'énergie. Et ça, forcément, ça va être des choix politiques qui ne vont pas être évidents.
Alors, puis ça pose une question d'échelle. On le voit bien, ce que disait Lolita, même si les récits augmentent, et si les prises de conscience et finalement le système fonctionne localement, il est dépendant et interdépendant de politiques d'aménagement à beaucoup plus large échelle. Il faudrait penser à des échelles de bassin versant.
Moi, en tout cas, c'est à cette échelle que l'on réfléchit. Moi, je suis, pour me présenter un peu plus, je suis directeur de ce qu'on appelle la zone Atelier Loire. La zone Atelier Loire, c'est un regroupement de chercheurs qui travaillent justement sur le bassin versant de la Loire pour comprendre tous les fonctionnements et tous les liens qui se font entre l'amont du bassin versant, qui remonte quasiment jusqu'à Saint-Étienne, à l'estuaire, donc au niveau de Nantes. Et pour comprendre le fonctionnement d'un bassin versant, c'est quelque chose de très complexe. Et malheureusement, des gens comme moi, on est extrêmement spécialisés. Et donc, il faut qu'on collabore avec d'autres scientifiques, d'autres disciplines. Et donc, on va avoir dans ce réseau de chercheurs des chercheurs en sciences humaines et sociales, des géographes, des sociologues et des chercheurs, par exemple, en géosciences qui vont travailler, par exemple, sur l'écoulement des sédiments, des résultats dont je viens vous parler. Mais de plus en plus, on travaille aussi avec les acteurs du territoire. On travaille avec la mission Val-de-Loire, on travaille avec la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, parce que on s'est bien rendu compte, nous chercheurs, que même si on propose des résultats, si on propose des solutions à nos gouvernants, on va les appeler comme ça, les solutions sont très peu mises en place. Et donc on se rapproche de plus en plus des acteurs du territoire à des échelles locales pour de la sensibilisation, pour du transfert de connaissances et pour trouver aussi ensemble, surtout, des solutions pour appliquer les connaissances et les solutions aux problèmes que les scientifiques ont trouvés. Parce que faut quand même savoir qu'on dit que les chercheurs ne trouvent pas, mais globalement, les solutions à la plupart des problèmes que l'on a actuellement, elles sont trouvées. C'est juste un changement de paradigme, un changement de système qu'il faut mettre en place, et notamment au niveau de la production agricole.
Merci. On a fait un tour assez large en ouvrant beaucoup de pistes de discussion. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie, des questions à poser ou éventuellement des compléments à effectuer sur ce qui a été dit. Les micros sont à disposition.
Oui, bonjour. Bernard Pelot, je suis le président de la Fédération des Maisons de Loire et je voudrais juste approuver ce qu'a dit Béatrice tout à l'heure concernant le rôle important qu'ont les éducateurs et les éducatrices de ces Maisons de Loire à transmettre la connaissance, à la partager avec tous les publics, la rendre la plus claire possible, et qu'ils s'en imprègnent et ça peut aussi permettre d'éveiller les esprits qui souvent sont bloqués ou ne comprennent pas forcément toutes les problématiques qu'on expose. Et ce rôle d'éducateur, je pense qu'il est, il est nécessaire aujourd'hui pour faire comprendre à nos publics tous les enjeux environnementaux qu'on va avoir à solutionner prochainement. Voilà, juste un témoignage.
D'autres témoignages ? J'en profite pour compléter, dire combien c'est essentiel, mais c'est aussi l'expérience artistique ou celle qu'on a pu mener à l'occasion de la Grande Remontée, de d'éprouver le territoire, c'est-à-dire de situer ses connaissances, de partir à la rencontre, de faire ses repas sur les berges, les pieds dans l'eau. On a aussi organisé beaucoup de discussions, les pieds dans le sable, et donc le faire émerger ses savoirs situés. Pour prendre en, conscience dans sa chair, dans cette espèce de corps territoire qu'évoquent Sophie Gosselin et David Bartoli, de la façon la plus intime possible et la plus large possible. Et effectivement, de fait, à terme, peut-être changer des trajectoires politiques. Je ne vais pas plomber l'ambiance toute, mais...
moi, c'est Manuel, étudiant à l'école du paysage. C'est plus une forme de considération, mais j'ai le sentiment qu'il y a en fait une recherche de recréation d'un espace de récréation ou de moi j'ai le sentiment qu'à l'école du paysage il y a beaucoup d'expérimentations qui peuvent s'apparenter en fait à de l'école buissonnière, mais comme si en fait dans cet espace, dans ce temps en fait on recrée les conditions pour s'immerger dans des lieux, pour se mettre en relation avec eux et pour recréer des liens avec un territoire, avec des vivants réanimer nos sens. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose qui fait rejaillir une joie, une simplicité. De l'ordre à la fois dans la contemplation, dans l'émerveillement, qui sont des conditions peut-être pour retrouver ensuite des processus de comment dire, enfin, plus politiques ou en tout cas de soins de la terre, de nos espaces de vie, de nos paysages. Et donc, c'est beaucoup de réjouissances que j'ai dans ces expérimentations qu'on a à l'école qui nous poussent beaucoup à travers des sorties, mais même les expérimentations qu'on fait à l'atelier de quatrième année avec Lolita notamment, et puis les partenariats qu'on a avec le Pays des Châteaux qui sont à la fois des lieux de rencontre avec beaucoup d'acteurs. Donc là, l'année dernière, c'était autour de l'alimentation et de l'agriculture et du tourisme. Des moments qui nous invitent à apprendre dans un... Enfin, j'ai vraiment ce mot-là de l'école buissonnière comme quelque chose, en fait, d'une fuite d'autre chose, mais pour retrouver peut-être, je sais pas, quelque chose d'un enfant aussi, un émerveillement enfantin... mais qui finalement est très sérieux, quoi.
Merci pour vos interventions et pour toute cette nature que vous nous livrez si belle. Et moi, je dirais qu'il faudrait commencer avant l'école du paysage et que c'est fort dommage que les enfants dans les écoles aujourd'hui soient sur du bitume et vivent les écoles du dehors, vivent la découverte de nos milieux. En ce qui me concerne, j'ai une association dans laquelle je fais découvrir les plantes sauvages comestibles. Et justement, nous avons travaillé sur toute la richesse ligérienne à ce niveau, avec la Mission Loire, que je remercie à la qualité de Bruno. Il y a vraiment des savoirs énormes qui se perdent, parce que ne pas connaître, c'est perdre de plus en plus, c'est exponentiel, et c'est ne pas respecter. Et moi, vraiment, l'idée que je défends avec l'association Fleur et Vie, c'est à partir du moment où on connaît, on respecte. Voilà. Donc merci pour des soirées comme celle-ci.
Merci. Alors juste, est-ce que tu peux garder le micro deux minutes et nous dire si... parce que moi, j'ai un souvenir de ces ateliers qui connaissaient un succès énorme. Donc il y a quand même un appétit réel des publics, des habitants, qui méconnaissent, certes, mais qui ont envie de connaître. Alors est-ce que...
Oui, effectivement. C'est-à-dire que quand on perd quelque chose, il y a un côté un petit peu exotique aussi d'y revenir. Moi, je déplore parfois que ce soit que exotique. C'est-à-dire que il faudrait pas qu'on en vienne à manger des plantes sauvages comestibles uniquement dans les restaurants étoilés, voilà, par exemple. Et c'est vraiment une éducation de base. En ce moment, par exemple, on a les boursettes, la mâche sauvage, qui est délicieuse, bien plus que la mâche qu'on achète et qui est cultivée. De plus en plus de personnes s'y intéressent, cherchent à découvrir. Mais pour autant, il n'y a pas un vrai mouvement, quoi. Voilà, on en est encore loin, quoi. Hein. Moi, j'ai vu, enfant, je voyais des gens qui allaient glaner sur les chemins, qui allaient récolter. Aujourd'hui, on se sent presque un intrus quand on est là avec notre petit couteau puis notre petit panier sur les bords des chemins, quand même. Hein. Alors, ça revient, il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour ça, certes. Même le lycée hôtelier à Blois, par exemple, ont eu l'occasion de faire des activités comme ça auprès de leurs élèves. Ça revient un petit peu. Et c'est souhaitable que ça revienne, qu'on ne perde pas tout.
Et rappelons que le glanage est un droit. Vous voyez le documentaire d'Agnès Varda, Les glaneuses, non, la glaneuse et les glaneurs. Les glaneurs, voilà. Très, voilà.
Juste pour... j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé tout à l'heure. Désolée. C'est pour recroiser un peu vos interventions à tous les deux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aussi une vraie joie à dépasser ses propres cloisonnements. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je crois, qu'on peut rencontrer chez tout le monde, en fait. Il y a quand même quand on mène les enquêtes auprès de toutes ces personnes, on va parfois voir des... Là, par exemple, dans le cadre de l'atelier dont parlait Manuel, on a été voir des agriculteurs qui sont assez éloignés des discussions collectives et qui nous faisaient part d'une très grande difficulté à parler de leur travail et à parler, du coup, aussi du travail des autres, puisqu'ils ne sont pas en relation... Avec beaucoup de gens, peut-être beaucoup moins dans la facilité de la parole que peut-être Masato, qui croise du monde sur le marché, ou peut-être on vient te voir pour te dire que ce que tu fais, ça intéresse, et puis il y a du monde qui passe autour de ta ferme, et puis ta ferme, elle est biologique, on l'a pas dit, mais enfin, donc peut-être qu'il y a... En fait, j'ai l'impression que même sur certaines populations humaines qu'on aurait tendance à isoler un peu en se disant bah voilà, il y a trop de freins de leur côté. Je crois qu'il y a une vraie joie à dépasser ses propres cloisonnements et à se dire qu'en fait je savais pas ça, ça a modifié la manière dont je voyais les choses, et presque on se sent de plus en plus on a l'impression de plus on connaît, moins on a l'impression de moins connaître, en fait, et on est encore plus curieux. Donc moi, c'est pour ça que je prône dans la pédagogie, dans le quotidien, dans les métiers, un maximum de décloisonnement, dans les politiques publiques évidemment, dans les compétences de nos agglomérations qui doivent absolument se croiser, évidemment qu'on peut pas traiter de l'eau sans parler de biodiversité, sans parler d'aménagement. Enfin, les compétences en France, enfin, on est quand même dans un pays extrêmement cloisonné. Donc voilà, le décloisonnement, c'est le début c'est vrai, d'une joie. Enfin, moi, je trouve qu'il y a, en tout cas dans l'atelier dont tu parles, celui de l'année dernière, il y a un petit livret là, si vous voulez le regarder. Il y a un moment donné où, de toutes vos enquêtes et de toutes vos découvertes qui croisaient des tas de gens différents, quand on en a parlé collectivement, la richesse de ce qu'on découvrait apportait presque une forme de joie infantine. Je suis assez d'accord. Comme si on découvrait le monde. On n'a jamais cessé, enfin, on ne cesse jamais de découvrir le monde.
Merci, bien le bonsoir, bonsoir à tous. Donc moi je suis Justin, je suis en deuxième année à l'école de la nature et du paysage. Et moi j'avais, pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Lolita, c'est vis-à-vis notamment de l'émerveillement que les tout-petits en général ont de manière assez naturelle et qui se fait brider au fur et à mesure des années. Et je trouve ça plutôt remarquable que la plupart des personnes, qui soient jeunes ou... moins jeunes, essaye de retourner vers cette dynamique-là. Et Ronsard citait « le visible appelle l'invisible ». Et là où je me dis qu'on pourrait très bien aussi visualiser l'invisible qui appelle le visible, là où la plupart en fait, des personnes ne soupçonnent pas toute la vie qu'il peut y avoir dans la Loire et de tous les facteurs qu'elle implique. Et c'est ça que moi, plus tard, en tant que paysagiste, j'espère, voudrais continuer à jouer là-dessus, sur un peu cet émerveillement de ce qui nous entoure, et de faire comprendre qu'en amenant à l'émerveillement, les gens auront un peu plus d'appétit, peut-être, à découvrir et à surtout protéger un peu cette source d'émerveillement-là. Et du coup, voilà, c'était à peu près ce que j'ai mis. Si, oui. Et par rapport à vous, quel est votre point de vue vis-à-vis de l'émerveillement vis-à-vis des gens, si c'est une tendance qui a quand même qui s'est démocratisée, qu'avant c'était plus considéré peut-être comme une mode, que voilà, on s'intéresse à ça parce que nos camarades ou parce que des voisins, etc., s'intéressaient aussi à ce genre de propos, ou parce que voilà, les gens s'intéressent, vu que c'est les petits qui disent « Ah, ça c'est intéressant », mais que finalement ils se retrouvent à ne pas avoir les outils d'argumentation face à leurs questions. Merci.
Moi, je veux bien répondre sur cet émerveillement, parce que je n'ai pas un constat malheureusement aussi, aussi optimiste. En fait, j'ai quand même l'impression que malheureusement, on reste à convaincre et à discuter avec des gens de notre monde, dans le sens où c'est des gens qui sont convaincus. Je suis persuadé qu'autour de la table et dans cette salle, la plupart des gens sont déjà convaincus, sont déjà sensibilisés à l'environnement et à l'importance de le protéger. Et malheureusement, le plus dur, c'est d'aller chercher les gens qui ne sont pas convaincus du tout, d'aller les chercher dans les écoles, d'aller les chercher dans les cités, d'aller les chercher au fin fond des campagnes. Et ça, c'est le travail qui est vraiment le plus difficile et le plus urgent, puisque ce sont ces gens-là qui votent aussi et qui font faire les décisions par la suite. Et je pense que le plus gros travail est là, malheureusement, il est sur les épaules de gens comme Béatrice ou de gens comme Lolita, et plus largement de gens qui sensibilisent à travers d'autres modes d'expression que nos rapports du GIEC ou autre chose. Mais il faut, enfin, il y a un gros effort là-dessus de sensibilisation, et tant qu'on n'aura pas convaincu toutes ces personnes qui sont quand même la majorité des gens à faire un petit effort pour améliorer les choses à grande échelle, malheureusement, on n'avancera pas.
Et moi, je voulais rajouter que le niveau social a une incidence aussi sur la connaissance. Et on s'en rend compte de plus en plus que l'enfant, quand il vient de la ZUB de Blois, ou quand il vient du milieu rural ou du milieu urbain plus favorisé de la première couronne, on n'a pas les mêmes réactions, les mêmes connaissances, la même restitution, les mêmes émotions, d'où l'intérêt aussi d'avoir des instits de qualité qui sensibilisaient aussi à la question environnementale. Et l'environnement est un support extraordinaire pédagogique pour le vivre ensemble, pour le sens que l'on peut donner à la bienveillance aussi. Donc voilà, c'est la nature, c'est pas la protéger pour elle-même, mais c'est aussi support de développement de la communauté humaine. Donc il y a aussi à avoir ce regard-là critique sur la question.
Peut-être pour conclure et atténuer un peu le pessimisme potentiel, je voulais vous relater simplement une expérience qui a été menée à l'occasion de la Grande Remontée. Vous avez probablement vu passer. Donc à cette occasion, il y a eu 21 discussions qui ont été organisées donc par le collectif Grande Remontée, très large. Donc une partie se trouve ici, mais assez vaste, et on a été très surpris par l'écoute, l'attention et la qualité du dialogue qui s'est instauré entre celles et ceux qui étaient embarqués et celles et ceux qui accueillaient ou qui baguenaudaient sur les berges et qui se posaient là à l'occasion d'un échange et d'une discussion qui n'était pas forcément uniquement, j'aimerais croire que ce n'était pas tous des gens convaincus, et que certains s'arrêtaient par hasard juste pour voir les bateaux, plutôt comme des touristes ou avec une curiosité en tout cas qui n'était pas mue uniquement par un souci d'écologie politique. Et il se trouve qu'on a été très surpris du dialogue, du nombre de personnes déjà qui étaient présentes à chaque soir. Hein, donc c'était un rituel assez bien organisé tous les soirs. Et donc on va essayer de le faire fructifier, de publier le fruit de ces échanges. Donc voilà, c'était un peu pour tempérer la note en disant finalement...
l'habitant, l'habitante sont aussi des personnalités qui, bien que pas forcément complètement centrées sur la problématique, s'interrogent sur les modes d'habiter, s'interrogent sous d'autres formes, avec d'autres outils, effectivement, d'autres champs syntaxiques parfois, ou d'autres compétences. Mais pour autant, à condition de réformer un peu les modes de dialogue, la transversalité, la porosité des savoirs, etc., on a eu le vague sentiment qu'il se passait quelque chose. Je vais arrêter là dans l'optimisme, à cette occasion-là. Et donc, ça nous a forcément tous poussés à continuer d'ouvrir, à continuer de traduire, à faire cet effort que tu nommais. Nicolas, je pense qu'on est tous véritablement enfermés dans des silos de pratiques et de compétences. C'est très dur d'en sortir. Et on a là un enjeu énorme, nous, à ce sujet-là. Mais à cette condition, il y a peut-être quelque chose peut se faire. Il y a peut-être une lueur au bout du tunnel dans ces conditions-là. Quand il fait beau l'été, qu'on est les pieds dans l'eau sur les bords de Loire.
Si je suis là, c'est que j'y crois quand même.
Merci beaucoup. En tout cas, voilà, on a fait un petit tour d'horizon sur ces potentialités de récit. Moi, je voulais remercier l'équipe de la Halograin qui nous a permis de monter cette discussion qui était très intéressante à organiser. Évidemment, les intervenants et les intervenantes qui ont accepté de jouer un jeu pas facile, puisqu'on est nombreux et que voilà, il fallait que le dialogue avance. Et puis, vous remercie aussi d'avoir pris position dans ce cercle qui s'est déformé, qu'on n'a jamais vraiment réussi à dessiner en un cercle parfait. Et puis, vous souhaitez un bon festival, parce que je crois que ça continue encore quelques jours. Voilà. Bonne soirée et merci beaucoup.